Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. À suivre, Eva Rock pour le zapping du lendemain sur notre deuxième cerveau. Et Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial deuxième service. Notre invité culture, c'est l'humoriste Arnaud de Samer pour son nouveau spectacle qui résume les 4 dernières années de sa vie, 2 mariages et un enterrement. Et je peux vous dire que les mariages furent un fiasco. Et puis dans les indispensables, un film autour d'un procès historique présenté par Eva Rock. Et puis un jeu vidéo qui va transformer votre salon en circuit automobile. Ce sera avec Clément Le Saffre. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Je vous présente Bertrand Chameroy.
Bonjour, oui, bonjour.
Bonjour, pas bonjour parce que bonjour. Vous étiez avec nous, on en était ravis.
Tout à fait. Et c'est une très belle émission que Culture Média en tant qu'invité, je tenais à le dire.
C'est vrai?
Oui.
Ah oui, c'est la première fois que vous étiez invité.
Ben oui.
Quel faillot.
Ouais.
C'est l'heure de l'écran de veille, mon petit chouchou. Bertrand, qu'avez vous regardé hier? Comme il fait le faillot,
bah
je fais
oui.
le prof
bah oui,
qui
oui.
se laisse avoir.
Écoutez,
par le premier argument.
Mon bijou, j'ai regardé Objectif Top Chef sur M6. Le but du programme, permettre à Philippe Etchebest de choisir le candidat qui intégrera sa brigade dans la prochaine saison de Top Chef. En gros, c'est un peu comme une primaire dans un parti politique avant la présidentielle, sauf que là, ça se passe au milieu des casseroles. Oui, donc c'est comme une primaire en politique, finalement. À la tête du programme, Philippe Etchebest, donc, qui s'est beaucoup exprimé ces derniers temps, ici notamment, pour dénoncer de manière très cash les terribles conséquences de la crise sanitaire sur le milieu de la restauration. Et c'est marrant, parce qu'en mettant bout à bout ses interventions dans Objectif Top Chef, sans les images, on ne sait plus vraiment s'il s'adresse sur M6 à des candidats ou sur BFM au gouvernement. Écoutez.
Alors, arrêtez vos conneries.
Elle est où la cohérence?
Je ne peux pas le croire. Je peux pas le croire.
Cette année, je suis plus remonté que jamais.
Ah oui,
oui, on sait plus. Ah ouais. Ça, il en a gros sur la patate, le chef Etchebest. Résultat, ce sont les candidats qui prennent pour le reste du monde. Il leur hurle dessus comme un sourd, même quand ça ne se justifie pas.
L'année dernière, je n'ai pas remporté ma 3e victoire dans Top Chef. Cette année, je compte bien me rattraper.
Et oh, dis, et oh, du calme, Robert Hossein, là. Oh, Dika. Moi aussi, je peux lever la voix, hein, l'astico.
Oh, Dika, j'avais oublié.
Objectif Top Chef, c'est l'occasion de découvrir des recettes, mais également des métiers dont on ne soupçonnait pas l'existence, comme celui de cette candidate.
J'ai 29 ans, je suis kinésithérapeute, je suis spécialisée dans la rééducation de la langue.
Kinésithérapeute de la langue, je ne savais pas que ça existait, et pourtant. Une profession intrigante, mais qui pourrait servir à Philippe Etchebest, vu ses performances en chanson en anglais, une séance de rééducation linguale ne serait peut-être pas de trop. Un magnifique yaourt servi par le chef Etchebest, exactement, mais qui n'est pas près d'être maestro, n'oubliez pas les paroles. Objectif Top Chef, c'est aussi un lexique à part entière. Là-bas, les candidats appelleraient un steak haché puré, ruminant déstructuré, jouxtant son lit de tubercules concassés.
Poulet sous presse avec sa déclinaison de carottes.
Un rack d'agneau, saveur de la forêt.
Et l'intitulé de mon plat est le canard split.
Le canard split, qu'est-ce que c'est encore que cet esbrouf?
Le canard split, c'est-à-dire qu'on a du canard avec une chantilly dans l'idée d'un banana split.
Ah oui, d'accord. Donc en fait, on peut tout mélanger. Ça sera quoi la semaine prochaine? Bon, mais je vous ai préparé un tiramisu de rognum de veau. Ça n'a aucun sens. Non, mais je suis taquin, mais Objectif Top Chef, comme Top Chef, c'est un programme qui met à l'honneur la gastronomie, le bien manger, les produits frais, les circuits courts, le goût de la cuisine. C'est donc tout naturellement qu'à la fin du programme, on retrouve dans la première page de pub qui suit cet annonceur.
Partagez de bons moments avec le retour de la gamme royale chez Donald's.
Une pub pour un fast-food qui enjoint à venir comme vous êtes. Pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que si Etchebest vient comme il est à la régie pub d'M6, ça risque de mal se finir. Je préfère partir avant que ça gueule. Je m'en vais. Allez, bonne journée.
Merci Bertrand. Merci. Après l'écran de veille de Bertrand, c'est à vous, Eva, avec votre zapping du lendemain. Qu'est-ce que vous avez retenu dans les programmes du soir et le thème?
C'est le bidon, la bedaine, enfin le ventre, hein, pour faire tout simple. Un ventre qui est mis à mal, à en croire le reportage exclusif d'Envoyé spécial que j'ai pu voir en avant-première, qui est le résultat d'un travail mené par la cellule d'investigation Disclose. Disclose, c'est un média qui réunit plusieurs autres médias. 3 ans après le scandale du lait infantile commercialisé par Lactalis, eh bien les journalistes reviennent sur les accusations qui pèsent toujours sur le géant de l'agroalimentaire. Il est ainsi reproché à l'entreprise de rejeter des produits toxiques dans les cours d'eau voisins des usines.
On arrive près de l'endroit où l'usine Lactalis de Saint-Just-de-Clay reverse ses eaux usées dans l'Isère depuis des années. Là, on commence à avoir des déchets blancs, etc. Ces dépôts blancs, c'est pas des dépôts de lait. Hein.
Les poissons ne peuvent pas absorber des produits chimiques d'une telle intensité. Enfin,
D'ailleurs, on le sent. On le sent, il y a plein de réactions chimiques qui se font. Dommage que les odeurs ne passent pas par la caméra.
Et ce n'est pas le seul exemple, puisque ce type de pollution a été constaté dans plusieurs sites en France. Une enquête qui risque d'embarrasser une nouvelle fois l'entreprise. Envoyé spécial diffuse un sujet d'une trentaine de minutes et l'enquête intégrale est à voir sur le site Disclose. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, les produits laitiers ont des effets dévastateurs sur mon intestin, sur mon estomac.
Non, ce sont mes amis pour la vie.
Bon, non, d'accord. Moi, et vous, Philippe,
je pourrais digérer des boulons.
Ah ouais, bah alors, pas moi. Et c'est le cas aussi pour Dora Mouto. Dora Mouto, elle est journaliste, elle est auteure d'un nouveau programme court formidable à voir sur arte.tv. Et avec beaucoup d'humour, elle raconte son mal.
Moi, c'est Dora. Ma vie, c'est de taper ce genre de questions sur Google. Comment arrêter de péter, comment réussir à faire caca quand on est très constipé, enfin, ce genre de truc, quoi. Parce que ça fait un moment, presque 10 ans, que je suis vraiment très malade des intestins.
Alors, on sourit à première vue, à première écoute, quand on l'entend comme ça. Mais la suite, elle n'est pas drôle parce que Dora, elle souffre, et ce, depuis 10 ans. C'est vraiment un handicap invisible qui lui pourrit la vie. Et à force de faire des recherches, à force de traîner aussi sur les forums, sur Internet, d'aller voir des médecins, elle est devenue une pro des maux de ventre. Et je vais le redire en français, elle est devenue une pro des maux de ventre. Et à chaque épisode de sa série documentaire, eh bien, elle explore une nouvelle thérapie, énumération.
Un des premiers trucs que le médecin ou naturopathe va te donner, c'est des probiotiques. Après, j'ai un autre épisode où j'ai creusé le sujet de la nutrition, parce qu'évidemment, quand t'es malade, et quoi bouffer, c'est quand même un énorme sujet. Évidemment, intéressé à la transplantation fécale, c'est quand tu prends les selles de quelqu'un et que tu te les réinjectes dans ton cucu à toi pour récupérer les bonnes bactéries. Encore plus bizarre, et j'ai été explorer la thérapie par Elmint, que j'ai découvert à travers un groupe Facebook, les Elmint, c'est des vers. J'ai été me renseigner sur la thérapie par phage. Les phages, ce sont des virus qui infectent les bactéries. Du coup, j'ai été carrément en Géorgie pour ça, j'ai pris l'avion en flou.
Elle n'arrête pas, Dora Mouto. Elle est drôle, elle est pertinente, elle est impertinente. Son enquête est rigoureuse et complète. Et le nom du programme est tout aussi savoureux. Ça s'appelle « Comment j'ai hacké mes intestins ». Et vous allez comprendre le sens du titre dès le début. Et puis, Philippe et Bertrand, je suis sûre que vous avez déjà vécu cette impression, celle d'avoir des petits papillons dans le ventre. Vous savez, quand on tombe amoureux, ce moment si précieux.
Mais pas avec Dora Mouto.
Mais pas avec Dora Mouto, peut-être. En tout cas, elle est danseuse. Lui, il est skateboarder. Elle danse au milieu du musée d'Orsay. Lui, sur sa planche, il file à grande vitesse entre les œuvres du Louvre. Sur YouTube, découvrez un film féerique de 3 minutes qui revient sur cette histoire d'amour qui se joue dans des lieux sublimes, une rencontre sur une musique de Max Richter. La rencontre de deux corps, donc, dans ces musées, filmés par Tristan Elias et Marin Trout, dont je deviens une inconditionnelle de son travail. 3 minutes de beauté absolue, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Je récapitule, l'enquête exclusive sur Lactalis est à voir dans Envoyé spécial, sur France 2 à 21h05. Comment j'ai hacké mon intestin est disponible sur arte.tv. La danse et le skateboard, c'est sur la chaîne YouTube Muséum.
Et j'ai appris que Dora Mouto, elle avait des virus sur ses microbes. Ça, il faut le faire. Merci beaucoup Eva, merci Bertrand. À demain.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Arnaud de Samer.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes humoriste, on vous avait découvert chez Laurent Ruquier dans On ne demande qu'à en rire sur la 2. Aussi sur la 2, chez Michel Drucker, le dimanche après-midi. Mais votre vrai métier, c'est la scène. Après 3 one-man shows et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, vous revenez en 2020 et 2021 avec un nouveau spectacle. Ça s'appelle « Deux mariages et un enterrement ». Très bon titre. Spectacle actuellement tourné en novembre, décembre, janvier. Vous serez du 10 au 14 février à la Cigale à Paris. Je le dis parce que les locations sont déjà ouvertes. C'est quoi l'idée de ce spectacle ?
L'idée de ce spectacle, c'est pour la première fois de ma carrière, essayer de faire rire avec des choses de ma vie privée. Voilà.
Quand on vous a posé la question, j'ai vu ça dans un papier, vous n'avez pas répondu directement, vous avez répondu par un pitch. Le pitch d'un spectacle.
Le pitch du spectacle, oui. Alors, je savais que vous me poseriez la question, donc je l'ai toujours dans la poche, en fait, le pitch du spectacle, parce que je n'arrive pas à le retenir par cœur, ce pitch. vous allez comprendre pourquoi, Philippe. Le pitch du spectacle, c'est Arnaud de Samer plus une épouse égale un mariage, moins une épouse égale un divorce, plus une autre épouse égale deux mariages plus un enfant, plus le départ de la nouvelle épouse égale deux divorces, plus une garde alternée, plus la mort du père, moins la motivation égale 4 ans de dépression, plus la renaissance, plus un œuf au plat, le spectacle de la maturation.
J'adore l'idée du spectacle de la maturation et non pas de la maturité.
Non.
Quelle différence vous faites ?
C'est-à-dire que ça a été quelque chose, un spectacle qui a été long à accoucher parce qu'il a fallu prendre la décision, est-ce que oui ou non déjà je continue ce métier, parce que la question s'est posée, et est-ce que oui ou non j'aborde ces événements qui me sont arrivés, ces quatre dernières années et qui m'ont bien chamboulé quand même. Donc il a fallu, oui, la maturation, j'ai fait maturer tout ça, quoi.
Mais c'est allé jusqu'à la dépression ?
C'est allé, oui, on peut parler de dépression, oui, à un moment donné, quand on, oui, à un moment donné, quand on est en larmes en loge avant de monter sur scène et en larmes après, oui, on sait qu'on va pas très bien, oui.
Alors sur scène, ça se voit pas, on va entendre un extrait sonore, le spectacle est encore en rodage, enfin, vous avez un petit peu démarré, on a exhumé un passage que vous aviez présenté au Festival de Montreux, c'était en 2019. On écoute.
Moi, depuis 4 ans, je ne suis pas venu au Festival de Montreux parce que, voilà, j'étais, ça va peut-être vous paraître un petit peu prétentieux, mais je n'étais pas invité, en fait. Et c'est vrai que moi, quand je ne suis pas invité quelque part, très souvent, je prends la décision de ne pas y aller. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Je suis comme ça. Alors, si une fois, je suis allé quelque part, je suis allé à un truc où je n'étais pas invité, je ne le referai plus. Sans y être invité, je me suis rendu au remariage de mon ex-femme. Pas bien, il ne faut pas faire ça. Non, il y a eu un malaise. Alors, la cérémonie était très bien, hein. Moi, ça allait très bien, mais je sais pas, dans le regard des gens, j'ai senti, voilà, peut-être que j'exagère, mais comme si les gens se demandaient ce que je foutais là, en fait, vous voyez ? Ah. Et le malaise, je l'ai surtout senti au moment de l'échange des consentements. Un moment très beau, très solennel, il y avait mon ex-femme qui était là, magnifique. Oh là, pardon, allez. Il y avait son futur mari qui était là, futur mari qui donc à l'instant présent était donc toujours hein, officiellement son ex-amant. Pardon, j'ai un fou rire.
Et là on a envie de savoir, que s'est-il passé au moment du consentement ?
Bah donc elle est avec son ex-amant, voilà, au moment du consentement, bah moi tout simplement non, mais il y a eu un malaise parce que moi j'ai voulu montrer ma joie, ouais. Au moment de l'échange des consentements, il y a quoi de plus normal que de montrer sa joie à ce moment-là, donc j'ai voulu faire un smiley sourire, vous savez le smiley, ouais. Avec le sourire jusqu'aux oreilles, et donc j'ai voulu mimer ce smiley avec mon anus, donc j'ai baissé mon, bah non mais tout simplement Philippe,
ah, je me lance là-dedans, je connaissais pas la réponse. Quelle horreur.
J'ai baissé mon pantalon devant les mariés, dos à l'assistance dans l'église et voilà, et j'ai même fait parler le smiley, hein. Vive les mariés. Vive les mariés. Et il y a eu un malaise, je ne comprends pas pourquoi, Philippe, toujours pas.
Nous, on comprend un peu pourquoi. Ça a été écrit, c'est écrit, spectacle écrit par Arnaud de sa mère sur la contrainte de Jérémy Ferrari, c'est-à-dire...
En fait, Jérémy Ferrari a été un petit peu le à la base de la création de ce spectacle, dans le sens où c'est lui qui m'a convaincu que ce qui m'était arrivé dans ma vie devait se transformer en spectacle. Et en fait, avec le confinement, il a eu beaucoup de temps pour moi. Et donc, on s'est retrouvés à coécrire ce spectacle. Et puis, je dis sous la contrainte, parce que c'est un malade de travail, Jérémy, et donc il était sans arrêt derrière moi pour chasser la complaisance dans l'écriture et les faiblesses. Donc, il m'a rendu plus qu'un fier service. Voilà.
Une autre malade de travail, mais il y aura peut-être de la complaisance, c'est Hélène Manarino qui va arriver pour votre portrait inattendu. Vous restez avec nous. J'allais dire Jérémy Ferrari. Vous restez avec nous, Arnaud de sa mère.
C'est la même chose.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Hein ? C'est le son qu'a fait Arnaud de sa mère quand il a su qu'Hélène Manarino, que vous venez d'entendre, elle arrivait dans ce studio. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour,
vous ne la connaissez
Arnaud
pas.
Bonjour Hélène. Non, on ne se connaît pas personnellement, non.
Mais vous savez ce qu'elle fait.
Évidemment.
D'où le...
Très bien. Alors je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Nono, une de vos plus grandes passions, c'est le vélo. Et oui, une de vos idoles, Laurent Fignon, pendant votre jeunesse, le mois de juillet, le mois du Tour de France...
Il se marre déjà.
C'est incroyable.
Le mois du Tour de France était votre moment. Vous aimiez descendre en pyjama chez un de vos amis qui vivait dans votre immeuble pour regarder toutes les émissions du Tour toute la journée. Pour refaire les étapes en vélo après dans votre résidence.
Ouais. Mais ma mère n'a pas pu se souvenir de ça.
C'est peut-être pas votre maman. Et surtout, incroyable. Il ne fallait jamais toucher à votre vélo. Ça pouvait vous mettre très en colère. Alors, c'est tout naturellement que je vous propose ce matin de faire les étapes, oui, mais de votre vie. La ligne de départ, la maternelle, où pour le carnaval, vous avez été déguisé en jardinier, avec vos petits poireaux dans votre panier.
Pourquoi ça vous fait marrer à ce point, Arnaud de sa mère ?
Parce que c'est fou d'exhumer ce souvenir.
Et vous étiez furieux, puisque vous portiez des sabots, donc impossible de jouer au foot.
Mais oui, c'était un truc costumé. Ma mère me met en jardinier avec des sabots, alors que tous mes potes jouaient au foot et montaient dans les arbres. J'étais avec mes sabots immobiles, cloués au sol. C'était traumatisant.
C'est génial. Attends, et la cicatrice n'est toujours pas refermée.
Mais la cicatrice n'est pas refermée.
Parce que le foot, c'est votre vie, quand même, passion, évidemment, vie, ouais. votre passion. Et en ce qui concerne le foot, surtout, vous pouvez être très superstitieux. Coupe du Monde 98, votre meilleur maillot bleu, stressé par le match à la mi-temps, les Bleus gagnent 2-0 et vous avez exigé que tout le monde se remette à la même place pour la seconde mi-temps, pour être sûr que les Bleus continuent évidemment de marquer. Alors reprenons notre course, évidemment votre dopage, les pâtes saucisses, eh oui. Mais sur la route, vous savez vous motiver tout seul, notamment à l'âge de 10 ans, dès qu'il y avait de longs trajets en voiture, vous récitiez toutes les répliques de votre film préféré, Pouic Pouic. Pendant 600-700 km, vos parents étaient ravis. Et il y a eu d'autres inspirations, notamment ça.
Oh, c'est fort. Ça débouche la chiotte, ça. Je fais cette merde. C'est pas une boisson pour mauviette.
Vous connaissez par cœur les bronzés fonds du ski. Vous aviez même enregistré le film sur une cassette audio que vous mettiez dans votre Walkman pendant les cours. Il était dans votre poche, votre écouteur passait dans votre manche et vous écoutiez les dialogues.
Arnaud. Et dans ma Twingo également.
Et dans votre
je me faisais les bronzés fonds du ski dans le lecteur cassette de ma Twingo.
Alors une belle étape contre la montre pour ne pas vous faire repérer, même si votre prof de maths de 4e vous appelait mon petit chou. Alors, vous aviez des complices, votre peloton de tête, pardon, vos amis d'enfance toujours présents à Roquencourt où vous avez vécu. Pour aller au collège, vous attendiez avec votre ami Thomas sous le premier R du panneau de la ville. Votre autre ami, lui, se mettait sous le deuxième R et une fois l'équipe au complet, on pouvait partir en cours. Alors, il y a eu aussi vos jeux inventés. Si je vous dis par exemple le Muting Contest.
Qu'est-ce que c'est?
Mais non.
Si. Qu'est-ce que c'est le Muting Contest?
On se faisait des regards mutins en fait avec les potes. On se regardait comme ça. Bon là ça passe pas s'il y a le masque, mais on se regardait comme ça et il fallait
un jeu
faire,
de regard.
C'était un jeu de regard terrible, très intense, mais d'une débilité. Et ça ne fait rire que nous. Hein.
Il y a eu aussi le jeu du descendre le plus tard possible du bus. Ça c'est pas mal. Alors en tout cas, notre sa mère, vous avez surtout eu des amis présents, votre papa était militaire, vous avez vécu chez l'un de vos amis pendant quelques temps, vous imitiez son père à tel point que vous répondiez au téléphone à sa place.
Exactement.
Bref, des amis qui vous ont permis aussi d'avoir votre bac sans passer le rattrapage. Vous êtes sorti vainqueur grâce à votre fine équipe, mais parfois notre sa mère, vous avez dû beaucoup pédaler, beaucoup, beaucoup, notamment avec Coralie, votre première amoureuse à l'école.
Oh là. Attends, le dos Coralie, c'est quelque chose.
Ah oui. Mais qu'est-ce que j'étais amoureux d'elle.
Amour
en CE2.
Platonique et silencieux.
Ouais, en voilà. CE2. Ouais,
ça a duré.
Et puis elle a déménagé, ça a été un traumatisme. Et grâce au réseau, on s'est écrit il y a 2-3 ans.
Ah, mais c'est
on s'est retrouvés. Bah, elle vit une vie de tout à fait heureuse avec mari, enfant, etc. Et c'était incroyable de pouvoir s'écrire et se remémorer cette période-là, ouais, en CE2. Ouais.
Alors, heureusement que pour vous sortir de ce petit chagrin d'amour, il y avait lui. Jean-Jacques Goldman,
j'ai très peur des infos.
Vous aviez toutes ces musiques sur votre Walkman, vous l'écoutiez des heures, surtout quand vous rendez dans un endroit très très privé.
Qu'est-ce que c'est l'endroit privé?
Elle l'a dit.
Voilà, je ne voulais pas le dire, mais je le dis à votre place. J'irai au bout de mes rêves. Alors vous n'êtes pas allé au bout, puisque quand vous étiez au collège, vous êtes...
Je peux juste. Non, c'est parce que ça a traumatisé. Je vivais en colocation l'année du bac. J'étais hébergé chez mon pote Derek. Et effectivement, adorant Jean-Jacques Goldman, j'allais aux toilettes en tirant un câble. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des trucs très... Il n'y avait pas de batterie. Donc je tirais le câble électrique de dehors des toilettes, jusque dans les toilettes, avec mon Walkman. Et je chantais à tue-tête aux toilettes. Et ça durait longtemps.
Alors,
oui.
J'irai au bout de mes rêves. Vos parents l'avaient prédit quand vous aviez 6 ans. Arnaud, il finira sur les planches. Et en plus, aujourd'hui, vous êtes en haut du classement.
Merci beaucoup, Hélène. Dis donc, quand même.
Je suis en nage. C'est très éprouvant.
Ces
interviews.
Et c'est très émouvant de voir comme ça. Merci beaucoup, Hélène Manarino. À demain. Dans un instant, vous restez avec nous, à notre sa mère. Remettez-vous, on marque une pause. Eva Rock arrive. Elle va nous faire découvrir son coup de cœur. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
En compagnie d'Arnaud de sa mère, il revient pour son nouveau spectacle. Ce masque, c'est pas facile, c'est un mot à prononcer. Deux mariages, un enterrement. Ça sera du 10 au 14 février à la Cigale à Paris. Vous serez à Vierzon. Avant cela, à Marom, à Toulon, à Noyon, plein d'autres endroits. À Caluire et Cuire, à côté de Lyon, à Saint-Étienne, à Bourg-les-Valence, à Jouer-les-Tours. Le titre, deux mariages, un enterrement. Deux mariages, mais deux divorces surtout.
Oui, c'est ça.
Surtout ça, avec lequel
sinon, ce n'est pas légal.
Est-ce que vos ex ont vu les spectacles?
Non. Enfin, je ne. Non.
Est-ce que vous les avez prévenus?
Alors, non, c'est difficile. La première, je n'ai plus aucun contact avec. La seconde, non, je ne l'ai pas prévenu, mais je n'éprouve pas le besoin de le faire parce qu'il ne s'agit pas d'un spectacle dans lequel je règle des comptes.
D'accord.
C'est un spectacle dans lequel je parle de ça, mais je ne règle pas de comptes. Je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Je suis dans une démarche de faire rire avec des choses pas drôles. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai mélangé beaucoup de vrai à beaucoup de faux et de fiction pour que les gens ne puissent pas se dire... Voilà, il règle ses comptes, tout est vrai, donc il règle ses comptes, etc. Non, c'est juste. Et d'ailleurs, dans le spectacle, on a, avec Jérémy Ferrari à l'écriture, on a tenu à ce que mon personnage soit le pauvre type en priorité. Et donc, pas du tout une victime, mais vraiment un pauvre
d'accord.
gars.
Quoi. Donc vous redoutez pas leur réaction.
Alors... Non, je pense, surtout la deuxième personne dont on parle, je la sais suffisamment intelligente pour ne pas prendre le spectacle mal si un jour elle le voit.
Ah bah je peux dire qui elle est, je trahis pas un secret, c'est de notoriété publique, on la connaît bien ici. Elle a même fait cette émission, c'est Margot Lafitte qui présente les émissions de F1 sur Canal+. Je vais pas vous faire parler d'elle, en revanche je vais faire parler d'une de vos passions. La course automobile.
Oui.
Est-ce que vous continuez à regarder la F1 sur Canal+ comme si de rien n'était ?
Mais bien sûr, évidemment. Non, mais le évidemment, le sport auto est une passion de ma vie et je suis en excellent terme avec la maman de mon fils et il y a aucun problème.
D'accord. Eva Rock.
Oui.
L'enchaînement est tout trouvé parce que vous avez tout
j'ai
le temps.
J'ai pas du tout parlé de voiture. Hein, je vous le dis tout de suite.
Non, pas du tout. Je veux dire pourquoi oui. Parce que vous nous présentez parfois des séries avec des scénarios complètement barrés et là
oui.
Je trouve c'en est un.
Ouais,
le
un
fan
peu.
De F1
c'est
qui
vrai.
Est séparé de la femme qui présente la F1 donc il la regarde tout le temps et en même temps qu'il a son plaisir, c'est sa douleur.
Vous vous enfoncez, mais c'est pas grave.
Non,
on va
je m'enfonce pas du tout. C'est un très bon pitch.
Non, c'est pas mal résumé.
Non, c'est un
mal.
Très bon pitch.
C'est pas mal.
Eva,
vous allez comprendre.
Vous êtes revenu de retour. Mais dit, c'est un coup de cœur à
oui.
voir sur Netflix.
Oui.
On vous écoute.
Et j'ai choisi de vous emmener dans l'enceinte d'un tribunal en hommage à votre passé, Arnaud, sur les bancs de l'université de droit de Saint-Quentin en Yvelines. Vous allez prendre le temps. Je vous oblige à le faire. Prendre le temps de découvrir sur Netflix le film Les 7 de Chicago.
Alors la blague à part, c'est quoi le pitch Eva?
Alors on est en 68. C'est une histoire vraie, on est en 68 à Chicago, en pleine convention nationale démocrate. Des groupes d'opposants à la guerre du Vietnam manifestent et va s'en suivre une sanglante répression policière. Quelques semaines plus tard, c'est Nixon qui est élu à la présidence et son ministre de la Justice, il est bien décidé à punir ceux qui ont mené cette fronde. Explication avec le procureur.
Abby Hoffman, Tom Hayden, Jerry Rubin, David Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freund et Bobby Seale.
Pour ma part, je les surnomme les petits cons et croyez-moi, tout le monde sait de qui je parle. Bruyant, revendicatif et dangereux. On a supporté 10 ans ces branlotins de la contestation qui ne se sont jamais salis les mains à combattre l'ennemi et qui nous disent à nous comment conduire une guerre. Leur décennie est finie, les adultes reprennent du galon et si moi je décide que ces fiottes en haillons menacent la sécurité nationale, elles s'en iront passer leur trentaine dans une institution fédérale. Prison ferme.
Alors là, on est au début du film et donc cette histoire vraie va retracer, il est très remonté. Et donc imaginez l'ambiance quand le procès s'ouvre, le procès de ces 8 hommes. Parmi eux, il y a 2 hippies, 2 hommes qui n'ont absolument rien à voir avec l'affaire, mais qu'on a mis là, 2 étudiants démocrates, un père de famille pacifiste et un membre des Black Panthers qui n'était pas présent au moment des émeutes. Et on les retrouve au tribunal face au juge qui va être très important dans cette histoire, Julius Hoffman, premier jour de procès.
Ils appartiennent à 3 groupes séparés. Ils vous diront qu'un seul de ces groupes est celui...
Pardonnez-moi.
Monsieur ?
Je souhaiterais clarifier un point pour les jurés. Il y a 2 dénommés Hoffman dans la salle. Le prévenu, Abby Hoffman, et moi-même, le juge Julius Hoffman.
Merci, monsieur.
Je tenais à éviter tout risque de malentendu.
Mec, ça m'étonnerait qu'on puisse nous confondre.
Vous direz monsieur le juge en vous adressant au tribunal, ou monsieur le président, et vous ne parlerez que lorsque... Et puis vous ne parlerez pas, un point c'est tout.
Les prévenus vous diront qu'ils appartiennent à 3 groupes séparés.
Et qu'on inscrive au greffe que le prévenu Hoffman et moi-même n'avons aucun lien de parenté.
Papa, oh non.
Alors évidemment, je vous conseille le film en version originale, c'est beaucoup plus drôle.
Ah oui, parce que nous ici, on ne peut pas mettre les sous-titres. Mais c'est une comédie, on rigole bien.
Non,
là.
Mais alors pas vraiment en fait, parce que c'est un film politique sur un procès politique qui a été marqué par la manipulation tout au long des 5 mois que va durer le procès. Alors oui, il y a quelques moments drôles parce que c'est grâce aux joutes verbales en fait entre les accusés et le juge. Mais le procès, vous allez l'entendre, est aussi marqué par le pétage de plomb de Bobby Seale, le membre des Black Panthers.
Faites silence.
On est 8 accusés. Sur les panneaux dehors, il y a marqué libérer les 7 de Chicago. Les 7. Moi, j'ai rien à voir avec eux.
Monsieur du service d'ordre.
Vous parlez d'un complot.
Faites rasseoir.
Je les avais jamais rencontrés. La vérité, c'est que l'accusation avait besoin d'un noir pour faire peur au jury. On m'a pas acheté dans ce groupe pour le rendre plus menaçant. Moi, à Chicago, je suis venu pour faire mon discours, avaler un ragoût de poulet et reprendre mon avion pour Oakland. Et c'est pour ça que ce sont les 7 de Chicago. Me touchez pas, monsieur.
Comptez à Monsieur Seal une mention pour outrage au tribunal.
Et dis donc, même en français, c'est pas mal.
Oui, c'est très très bien écrit, vraiment. Sincèrement, franchement.
Et les voix sont très bien,
ouais,
je trouve.
Très bien. Ce film est vraiment une pépite. Trois raisons de le regarder, j'aurais pu vous en donner 150. D'abord le casting, je vais citer que quelques-uns des acteurs, mais il y a Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Eddie Redmayne et Michael Keaton. À la réalisation, il y a beaucoup de rythme, les images d'archives qui se mêlent au récit, le cadrage met vraiment en valeur les personnages, c'est parfait et c'est signé, et c'est là mon troisième argument, Aaron Sorkin. Alors Aaron Sorkin, à qui on doit notamment la série à la Maison Blanche, replonge donc dans ses premiers amours, à savoir la politique américaine. Et il se sert en fait de ce procès pour montrer les failles du système judiciaire américain, encore aujourd'hui, les pressions politiques qui s'exercent sur cette même justice. Et il dénonce au passage le racisme systémique en Amérique. Vous l'aurez compris, c'est un immense coup de cœur. Ça s'appelle Les 7 de Chicago. C'est à voir sur Netflix.
Commentaire à notre mère, ça vous a tenté?
Ah oui, ça m'a tenté. Oui, oui. Et effectivement, Philippe, quand les voix françaises donnent envie, c'est que... C'est bon signe.
Et c'est aussi qu'ils ont du talent, parce que c'est aussi un très, très beau métier. Merci
avec
beaucoup.
Lucien Jean-Baptiste dans La Voix Française.
Ah, Lucien Jean-Baptiste,
que vous venez d'entendre. Talent.
Et justement, et qui est très très bon et qui a un propos très intéressant sur la voix off et sur le doublage. Merci beaucoup Eva Rock. À suivre, notre deuxième indispensable, c'est Clément Le Saff qui est là avec des bagnoles. Je vous dis que ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de l'humoriste Arnaud de Samer et passionné de course automobile. Vous êtes toujours dingue de ça.
Oui, et je pilote dans la vraie vie, évidemment, oui.
Et j'avais noté qu'en 2017, vous n'aviez pas fait de tournée, de spectacle pour pouvoir aller rouler sur les circuits. Est-ce que c'est toujours le cas avec les jeux vidéo ?
C'est pas tout à fait vrai. On avait aménagé, disons, mon planning de tournée pour que je puisse effectivement faire mes courses. Et je roule toujours aujourd'hui. Oui. Je me suis mis également au sim racing pendant le
Qu'est-ce
confinement.
Qu'est-ce que c'est le sim racing ?
C'est la course automobile chez soi, sur un simulateur auto chez soi. Et voilà, je me suis installé ça pendant le confinement pour pouvoir assouvir ma passion, même quand on ne peut pas le faire à l'extérieur.
Ça ne pouvait pas mieux tomber d'être avec Clément Le Saff aujourd'hui, parce que Clément, vous venez avec un jeu vidéo un peu spécial. Il vient avec un accessoire, vous l'avez avec vous dans le studio. Décrivez-nous la chose.
Oui, on a installé un petit circuit en fait. Donc là, vous ne pouvez pas le voir sur les caméras pour ceux qui nous regardent. On va essayer de vous décrire tout ça. L'accessoire en question, c'est un kart rouge avec un certain Mario au volant. Vous voyez où je veux en venir, Mario Kart. Je me suis dit que un jeu de course, voilà, ça parlerait à Arnaud de sa mère. Alors, c'est pas de la Formule 1, on n'est pas sur de la grande course auto, mais c'est tout aussi bien, moi, à mes yeux. Et ce kart, c'est pas un goodies ou un jouet, c'est un accessoire indispensable pour jouer à Mario Kart Live Home Circuit. C'est le dernier né de la célèbre licence des jeux de course. Il vient de sortir, mais il n'est pas comme les autres. Cette fois, c'est un jeu en réalité augmentée. Et le circuit, bah, c'est votre salon.
Alors, vous pouvez nous voir sur europe1.fr. Je tiens le petit kart avec Mario dedans.
Avec la caméra.
Et Arnaud de sa mère montre l'image sur la caméra. Juste, comment on joue? Alors, on ne joue pas sur une console. Alors, c'est plus que ça.
On fait les deux, en fait. On joue sur la Nintendo Switch. Il faut avoir la Nintendo Switch pour jouer à ce jeu. Sauf que, eh bien, l'autre moitié du jeu se passe en vrai. Je vous explique. Il y a donc un kit avec le kart et quatre portiques en carton numérotés de 1 à 4. Donc on les a installés dans le studio pour faire un petit circuit derrière vous, Philippe. Le kit coûte 100€. Le jeu, lui, se télécharge gratuitement sur la Switch. Alors comment ça marche? En fait, on lance le jeu et pour commencer, il faut synchroniser le kart avec la console. On appuie simplement sur un bouton et là, il faut tracer un circuit. Donc on pose la console et on prend les portiques en carton, on les place où on veut, dans l'ordre. Il y en a 4, donc il faut les mettre quand même dans l'ordre 1, 2, 3, puis 4. Mais vous êtes totalement libre de les mettre là où vous voulez chez vous. Ensuite, il faut faire un tour de reconnaissance, c'est-à-dire que vous placez le kart Mario devant le portique numéro 1, vous reprenez la console et vous pilotez en passant entre les portiques les uns après les autres. Et là, vous faites le tracé que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez faire que des lignes droites, des virages, un circuit en rond, un circuit en 8, un circuit avec plein de formes, etc. Et grâce à la caméra située au-dessus de la tête de Mario sur le kart, eh bien, l'intelligence artificielle du jeu trace le circuit. Il est mémorisé dans la console et c'est parti en piste.
Donc ça veut dire que nous, on joue sur la console, sauf que le circuit est devant nous en vrai.
C'est exactement ça. En fait, en apparence, c'est juste voilà, un circuit avec des portiques. Alors là, on a tracé une espèce de tout petit rond parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais dans la console, eh bien, grâce à la réalité augmentée, eh bien, votre salon se mélange au monde déjanté de Mario Kart. Vous avez les boîtes à cadeaux, les champignons accélérateurs, les bananes, mais aussi des éléments de décor comme de la lave ou de la glace qui vous ralentissent si vous roulez dessus. et vous faites la course contre des adversaires qui, eux, sont complètement virtuels.
Juste d'un mot, Arnaud de Samer est déjà en train de jouer. Donc l'image qu'on voit sur Europe1.fr, c'est Arnaud qui joue, il regarde sur la console. Mais la petite voiture, elle roule derrière nous, elle est dans ce studio, elle roule toute seule.
Donc l'image qu'il y a sur la console, oui, c'est ça. C'est en vrai par terre dans le studio.
Exactement.
C'est incroyable.
Ça marche bien ?
Alors ça marche très bien, c'est vraiment bluffant en fait. Moi je pensais que ce serait un gadget, mais pas du tout. Alors il y a des petits défauts, la caméra par exemple est assez perfectible. Parfois on n'apprécie pas très bien la distance avec un obstacle, mais dans l'ensemble c'est très fluide. Le point fort, c'est la sensation de vitesse. Pas au début, au début vous êtes en 50 cm3, mais plus tard quand on débloque le 100, le 150 et le 200, là ça envoie vraiment hein. Par contre, et on en vient là par contre au vrai défaut du jeu, si vous avez un petit appartement, vous n'allez pas franchement vous amuser, notamment dans les grandes vitesses. Plus ça va vite, plus il faut de la place en fait hein.
Ouais. Donc il faut un grand appartement.
En tout cas, c'est plus amusant. Oui, Nintendo recommande un espace de 3 mètres sur 3 pour installer le circuit et avoir une bonne expérience de jeu. Moi, j'ai essayé dans mon petit studio parisien, j'ai pas 3 mètres sur 3. C'est jouable, hein. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de contrainte, mais c'est un peu plus étriqué. Hein. Vous avez des vierges en épingle partout, j'ai pas mal cogné les murs. En revanche, quand j'ai testé ça dans l'open space de la rédaction d'Europe 1, là, on peut faire des lignes droites de 10 mètres de long, c'est assez génial. On peut laisser libre cours à toute sa créativité.
Ça rapidement une réaction, parce que je vois que vous êtes déjà séduit, Arnaud de sa mère.
Moi, de toute façon, je suis un enfant, j'ai 14 ans, la réaction, elle est complètement enthousiaste. Il me faut ça. C'est indispensable.
Ce sera
combien ça vaut ?
Ça vaut 100 euros, et il faut avoir la Switch, hein, je rappelle quand même pour le prendre.
Pour la console.
Vous avez le carton téléportique et clairement, ce sera le carton de Noël. Il y a déjà des ruptures de stock sur certains produits, sur certains kits.
Merci beaucoup Clément Le Saff. Vous restez avec nous, Arnaud de sa mère. On va cesser de parler de voiture. On a encore plein de questions à vous poser sur votre spectacle. Ça, c'est la musique de Mario Kart. J'adore. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Arnaud de sa mère, pour son nouveau spectacle au titre Enchanteur, deux mariages et un enterrement. Je dis Enchanteur et c'est ironique parce que les mariages, ce furent plutôt des divorces que des mariages. Vous parlez des femmes, mais vous dites, dans une interview récente, vous dites « En même temps, je me suis d'ailleurs séparé professionnellement de quasiment tout le monde ».
Oui.
Pour quelle raison ?
Pour faire des deuils, en fait. C'est un spectacle aussi qui est, pour moi, dans un processus plus large du deuil. Donc, il a fallu que, pour me redonner une envie aussi professionnelle, parce que j'ai failli... j'étais à deux doigts d'arrêter tout ça, pour me redonner un coup de boost aussi, une envie et tout un processus de deuil. Je me suis séparé, j'ai changé de producteur, j'ai changé d'attaché de presse, je me suis séparé de tout le monde. Et après avoir été quitté, après avoir perdu dans la vie des personnes proches, il a fallu aussi que moi, je tourne une page pour pouvoir faire tous ces deuils.
Juste une question, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé en douceur ou vous avez tout envoyé valdinguer ?
Non, ça s'est passé en douceur, comme j'aime bien le faire. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de sanguin, d'impulsif. Je suis plutôt posé, réfléchi. Donc il y a eu une longue réflexion, discussion avec Jérémy Ferrari. On a longuement parlé de tout ça. Et puis les personnes que j'ai appelées pour me dire que je me séparais d'elles l'ont tout à fait compris parce que ce sont des gens qui connaissaient aussi les derniers mois de ma vie, donc ça s'est bien passé.
Deux divorces, ça pourrait suffire à un humoriste pour faire largement un spectacle. Pourquoi parler également de la mort de votre père ?
Parce qu'il fallait que... Parce que je ne pouvais pas ne pas mettre ça lier les deux. C'est-à-dire que j'étais à peine remis psychologiquement de ce qui m'était arrivé sur un plan conjugal que le cancer de mon père se déclare et que quelques mois après, on le perd. Quoi. Donc,
la question, mais je vais le dire. Le spectacle, il est tout nouveau. On n'a pas pu le voir pour des raisons techniques matérielles, puisqu'il n'est pas encore prêt. Comment vous arrivez à faire rire avec la mort de votre papa ?
Ça a été
ça vous fait marrer.
Non, mais ça a été un long travail de réflexion et d'écriture sur le fait de ne surtout pas placer le public dans une position d'apitoiement. Il fallait que je montre que j'avais un petit peu digéré la chose.
Et... Même moi, je savais pas comment vous poser la question. Ouais. Mais vous pouvez donner un exemple de ce que vous dites ou est-ce qu'au contraire, c'est sur la longueur qu'on comprend ce que vous en dites et ça fait rire sur la longueur.
Ça fait rire sur la longueur dans le spectacle parce qu'on se rend compte que le personnage qui se présente sur scène, qui dit « il m'est arrivé ça, ces deux divorces, cet enterrement, mais aujourd'hui je me présente à vous », le personnage, il dit « je me présente à vous, je suis remis de tout ça ». Et en fait, tout le long du spectacle, on découvre que ce gars-là n'est remis de rien du tout, qu'il est dans un déni absolu et que sa vie est d'un ennui total. Et plus précisément sur la mort de mon père, en fait, je parle de la mort de mon père en ne parlant que des fautes de français que font tous les gens qui m'entourent durant cette période. Donc j'évite le sujet, je suis toujours dans le déni, etc. Mais...
Ironie de l'histoire, Arnaud de sa mère, en 2015, avait un one-man show qui s'appelait Confidence, sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels, et ouais. Vous mettiez le doigt sur ce que vous appeliez votre normalité, je vous cite, vous disiez, ça serait vraiment inintéressant si je racontais vraiment ma vie, pas d'accident de la vie, pas de famille séparée, tout va bien.
Vous avez
parlé un peu vite.
C'est à vous que je disais ça,
ouais.
À l'époque,
ouais.
Et ben voilà, et ben, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, puisque à partir de cette période-là, tout s'est enchaîné.
Merci beaucoup. Je rappelle votre nouveau spectacle, Deux mariages, un enterrement, du 10 au 14 février à la Cigale à Paris. Et c'est en tournée le 13 novembre à Vierzon, le 19 à Maromme, le 28 à Toulon. Il y aura Noyon, Lille, la Cigale, je l'ai dit, Caluire et Cuire à côté de Lyon, Saint-Etienne, Bourg-les-Valence et Jouer-les-Tours, Nancy, Toulouse, Narbonne et Bordeaux. Ça nous amène au 26 février. Merci encore à Arnaud de sa mère. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler d'un documentaire sur l'ORTF raconté par Thierry Ardisson avec des archives exceptionnel. On sera avec Philippe Thuillier, l'auteur du documentaire. Mask Singer est de retour sur TF1. On en parle avec le producteur et la première éliminée, c'était vendredi, Frédéric Bell, elle sera là demain. Et puis le chanteur Patrick Fiori pour son nouvel album. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien, je vous dis à demain. Merci encore, cher pilote. Salut.
Merci Philippe.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.